Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 2 novembre 2020. Eric Manirakidza en votre compagnie. D'abord le sommaire. Les Ivoiriens, dans l'attente du résultat de la présidentielle, boycottés par l'opposition et émaillés de violence. En RDC, le président Tshisekedi a entamé des consultations en pleine crise avec ses alliés pro-Kabila. En Algérie, victoire du oui lors d'un référendum marqué par une abstention record. Les sports, ce sera juste après le journal. On commence par la présidentielle aux États-Unis. C'est le sprint final pour Donald Trump et Joe Biden dans leur course à la Maison-Blanche. À moins de 24 heures de la présidentielle américaine, les candidats, leurs colistiers et des personnalités qui les soutiennent descendent sur le terrain une dernière fois ce lundi pour tenter de convaincre les électeurs qui n'ont pas encore voté. Plus de 95 millions d'Américains ont déjà voté anticipativement. Abdulrahman Dia.
Donald Trump a le calendrier le plus chargé ce lundi. Il visite 4 États, la Caroline du Nord, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Il était dans ce dernier État il y a juste 2 jours, alors que son rival Joe Biden, qui y était hier, y tiendra encore un autre meeting aujourd'hui avant de se rendre dans l'Ohio. La Pennsylvanie, avec ses 20 grands électeurs, sera déterminante dans ces élections. Hier, en Floride, le président Trump a promis de relancer l'économie.
We have a chance to do something next year, even greater than last year. We had it the best ever.
Nous avons la chance de faire quelque chose l'an prochain encore plus grand que l'an dernier. Nous l'avions, la meilleure chance de tous les temps. Puis nous avons été touchés par la peste venue de Chine et nous ne l'oublierons jamais. Nous ne l'oublierons jamais. Et puis nous construisons notre économie à un niveau que personne ne pensait possible, devançant de loin toutes les nations du monde.
À Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie, Joe Biden a demandé aux électeurs démocrates de se mobiliser.
Chaque jour est un nouveau rappel de l'ampleur des enjeux, de jusqu'où ira l'autre camp pour essayer de supprimer la participation, en particulier ici en Philadelphie. Le président Trump est terrifié par ce qui va se passer en Pennsylvanie. Il sait que les habitants de la Pennsylvanie ont leur mot à dire. Si vous avez votre mot à dire, il sait qu'il n'a aucune chance.
En ce dernier jour de campagne, l'ancien président Barack Obama va prêter main forte à Joe Biden en Floride, tandis que le vice-président Mike Pence tiendra au moins 2 meetings en Pennsylvanie.
Il s'agit donc d'une semaine décisive ici aux États-Unis avec la tenue des élections. Combien de personnes iront voter? Combien de temps faudra-t-il pour connaître les résultats? Et qui sera le prochain président américain? Michel Quinn de la VOA fait le point. Le récit de Lionel Gahima.
À la veille du scrutin, le président Donald Trump et son challenger Joe Biden font leur dernier discours pour convaincre les électeurs. Une première grande inconnue, c'est le taux de participation. Demain, les électeurs vont-ils éviter de se rendre en personne aux urnes à cause du COVID-19 qui a fait plus de 230 000 morts aux États-Unis? Selon le US Election Project, plus de 93 millions de personnes ont déjà voté, soit environ 67% des votes anticipés de 2016. Chaque camp se dit assuré de remporter la victoire. Jason Miller, conseiller principal de la campagne Trump, assure que Trump a élargi sa base de soutien, en particulier parmi les hommes noirs et les latinos, ainsi que dans les États qui ont été historiquement des bastions démocrates.
L'ensemble de l'électorat a changé. Les coalitions sont différentes. Le fait que l'autre jour, Joe Biden ait dû retourner dans le Minnesota, un État que les Républicains n'ont pas gagné depuis 1972, montre à quel point ils sont inquiets du changement dans les États.
De leur côté, les démocrates assurent que la feuille de route vers la victoire est en train de changer pour eux et que les États normalement républicains vont se disputer jusqu'au bout. Biden et sa colistière Kamala Harris se sont rendus récemment au Texas, en Géorgie et dans l'Iowa, des États qui avaient soutenu Trump en 2016. Anita Dunn, principale conseillère de la campagne Biden, estime que la participation battra tous les records parce que les gens veulent voir le changement.
Mais si vous regardez l'enthousiasme énorme lors du vote anticipé, les chiffres records de vote anticipé, les gens iront voter. Et nous allons savoir le jour du scrutin qu'un nombre record de personnes se sont probablement rendues aux urnes parce qu'elles veulent le changement.
Personne ne sait quand les résultats seront disponibles après la fermeture des bureaux de vote. Les Américains vont devoir attendre un peu plus pour savoir qui sera le prochain président des États-Unis.
L'opposition ivoirienne vient de créer un conseil national de transition présidé par l'ancien président Henri Konan Bédier en vue de former un gouvernement de transition au surlendemain de la présidentielle émaillée de violences qui ont fait au moins 9 morts. Le conseil a pour mission de mettre en place dans les prochaines heures un gouvernement de transition, a affirmé l'ancien premier ministre Pascal Affingessan au nom de toute l'opposition au chef de l'État sortant Alassane Ouattara qui devrait décrocher un troisième mandat controversé. En Guinée, 4 candidats déclarés perdants à l'issue de la présidentielle ont saisi la Cour constitutionnelle pour contester la victoire du président sortant Alpha Condé. Selon une requête déposée dimanche, l'opposition demande l'annulation du vote dans la région de Kankan, fief de M. Condé, dans l'est du pays, et la proclamation de la victoire dès le premier tour de son opposant principal, Selou Dalin Diallo. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a entamé aujourd'hui des consultations en vue de résoudre la crise née au sein de sa coalition avec le camp de son prédécesseur Joseph Kabila, majoritaire au Parlement. Le chef de l'État congolais a récemment désavoué tout arrangement qui empiète à ses prérogatives constitutionnelles et voudrait créer une nouvelle union sacrée. Le point avec Eddy Issangou.
Les consultations dureront une semaine. Une vingtaine de personnalités et organisations rencontrent le président Tshisekedi aujourd'hui. Parmi elles, Joseph Paulin Kankoy, le coordonnateur du Conseil national du suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre qui avait permis d'organiser les élections de 2018. Monsieur Paulin Kankoy a révélé avoir demandé au président Tshisekedi de se concerter au préalable avec son prédécesseur Joseph Kabila. Pour lui, la crise est due au fait que le pays est encore en plein apprentissage de la démocratie et expérimente un nouveau système de coalition. De son côté, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a dit avoir souligné l'importance d'organiser dans les temps l'élection de 2023 pour éviter une nouvelle crise. Le cardinal Laurent Mossengo est parmi les personnes consultées. Le Front commun pour le Congo, le FCC, a réaffirmé son unité autour de Joseph Kabila et refuse de participer à ces consultations. De son côté, Martin Fayoulou, qui continue à revendiquer sa victoire à la présidentielle de 2018, a été reçu jeudi par le président Denis Sassou Nguesso à Brazzaville entre deux visites de Tshisekedi dans le même pays. Monsieur Fayoulou souhaite, lui, un dialogue et remet sur la table ses propositions des sorties des crises.
En Tanzanie, 3 jours après la victoire écrasante du parti au pouvoir aux élections générales, la police a brièvement arrêté lundi le candidat du parti Chadema à la présidentielle après cet autre responsable de la principale formation de l'opposition qui avait appelé à manifester. Tundu Lissou, arrivé en deuxième position, a finalement été libéré après 2 heures d'interrogatoire, mais ses autres responsables, dont son président Freeman Mbowe, étaient toujours détenus. Samedi, Tundu Lissou et Freeman Mbowe avaient appelé leurs partisans à descendre dans la rue à compter de lundi pour réclamer de nouvelles élections, dénonçant un vote entaché de fraude massive. La ministre française des Armées, Florence Parly, est arrivée lundi à Bamako pour une première rencontre avec les autorités maliennes de transition, une semaine après la visite du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. En Algérie, le oui l'a emporté au référendum sur la révision constitutionnelle dimanche avec 66,8% des voix, a annoncé le président de l'autorité électorale, Mohamed Charfi. Le scrutin a été marqué par une abstention record car seulement 23,7% des Algériens ont participé au vote. N'est-ce pas, Nathalie Barge?
Seulement 5,5 millions d'électeurs se sont déplacés sur 23,5 millions d'inscrits. Le taux de participation des 900 000 électeurs de la diaspora se réduit à un seul chiffre, selon l'autorité électorale. Cette participation est le taux le plus bas jamais atteint pour un scrutin majeur, constituant un revers inédit pour l'initiateur de la révision constitutionnelle, le président Abdelmadjid Tebboune, hospitalisé depuis une semaine en Allemagne. Lors de la campagne électorale qui a laissé la population indifférente, les opposants n'ont pas été autorisés à tenir de meetings publics. Les islamistes ont appelé à voter non et les partisans du Irak ont prôné le boycott. Après avoir poussé l'ex-président Abdelaziz Bouteflika à la démission en avril 2019, le mouvement Irak réclame toujours un changement du système en place depuis l'indépendance. La nouvelle constitution présente une série de droits et libertés, mais maintient l'essentiel d'un régime ultra-présidentiel.
Des délégations militaires des deux camps rivaux libyens sont arrivées lundi à Ghadames, dans l'ouest de la Libye, pour discuter de l'application de l'accord de cessez-le-feu signé récemment entre les deux parties. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a déclaré lundi que les États-Unis tenteraient d'obtenir la levée des sanctions de l'ONU visant le Soudan au sujet du conflit au Darfour. Au moins 32 civils ont été tués dimanche dans la région de l'Oromia, dans l'ouest de l'Éthiopie, lors d'une attaque menée par un groupe armé, a indiqué lundi la Commission éthiopienne des droits humains qui parle d'un massacre. L'épouse du président zimbabwéen a démenti toute implication dans une affaire de trafic d'or après que son nom a été cité vendredi dans des documents judiciaires. Vous écoutez Le Monde d'aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons maintenant à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le mini-tournoi préparatif du CHAN 2021 se poursuit à Niamey au Niger. Trois sélections s'y affrontent. Lors de la deuxième journée, le Maroc a eu raison du Mali 1-0. Un but signé Ayoub El Kabi. Les Lions de l'Atlas prennent la tête avec 3 points devant le Niger et le Mali qui ont 1 point chacun. Lors de la prochaine journée, mercredi, le Niger fera face au Maroc. Au Cameroun, les Lions de l'Atlas locaux joueront dans le groupe C en compagnie du Togo, du Rwanda et de l'Ouganda. Le Niger figurera dans le groupe B avec le Congo, la Libye et la République démocratique du Congo, tandis que le Mali évoluera dans le groupe A avec le pays hôte, le Cameroun, le Zimbabwe et le Burkina Faso. En République démocratique du Congo, en 8 journées de championnat, Maniema Union reste seul en tête. Le club de Kindu, qualifié pour la Coupe CAF, réalise un bon début de saison avec 15 points suite à sa victoire face à Simba 2-0. L'AS Vita Club partage la seconde place au classement avec Renaissance de Congo. Après avoir battu 3 buts à 1 Lubumbashi Sport, le tout-puissant Mazembe est classé 4e avec 9 points. Au Cameroun, le championnat de football a repris le week-end avec une première journée marquée par une crise entre la fédération et la ligue professionnelle. Sur le terrain, le champion sortant, Coton Sport de Garoua, a bien démarré en venant à bout de Panthères sportives d'Ende 2-0. Pour la suite de cette première journée, on aura entre autres Bamboutos UMS de Loum, Canon de Yaoundé contre FC Feche, New Star jouera Union de Douala et puis Stade Rena affrontera Astra de Douala. Au Burkina Faso, on jouait la 8e journée du Faso Foot le week-end écoulé. Le leader, l'USFA, conforte sa place suite à sa victoire 2-0 devant le Rai Club du Kadiogo. Son dauphin, l'Union Sportive de Ouagadougou, a battu 3 buts à 1 l'ASFA Yenega. Pour le reste, hier, l'AS Police a battu l'étoile filante de Ouagadougou 2 buts à 1. Victoire également de Salitas 1-0 devant l'AS Douane et puis Raimo a été accroché à domicile par Vitesse FC, 1-0. En Guinée, on jouait la 3e journée, Felo Star de l'Abbé, largement vainqueur 4 buts à 1 de Santoba, prend la première place avec 6 points devant Afia de Conakry, tenu en échec 0-0 par le club de Kamsa. Par contre, début difficile pour l'AS Kaloum, battu une fois encore et cette fois-ci 1-0 par Flamme Olympique. Le champion en titre, Ouria AC, jouera son premier match mercredi face à Wakia.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manivakidza toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Les Américains se rendent aux urnes demain au Mali. Beaucoup suivent avec attention la présidentielle américaine et les campagnes des candidats républicains Donald Trump et démocrate Joe Biden. Cette année, l'ambassade des États-Unis à Bamako a organisé une formation des journalistes sur la couverture de la présidentielle américaine. Plus de précisions avec Kassim Traoré.
Le pays de l'Oncle Sam est à la recherche de son 46e président. Dans la capitale malienne, le scrutin du 3 novembre intéresse certains Maliens.
Je m'appelle Dumbia Assa, que l'élection américaine est très importante pour nous. Les États-Unis sont considérés comme la grande puissance mondiale. Donc, leur élection impacte sur l'économie mondiale. On veut que la personne qui sera élue président des États-Unis soit une personne qui soit apte à donner les grandes lignes pour de grands partenariats.
Le Man Koulibaly a résidé aux États-Unis pendant 30 ans. Il est de retour au Mali, mais suit de près la campagne électorale sur les chaînes de télévision et radio. La présidentielle américaine s'invite dans les causeries et autres grains de la capitale malienne, mais avec moins de tensions.
Abdoulaye Bessé, communément appelé ABC. Le président américain s'est prononcé l'autre jour par rapport aux élections par courrier, qu'il voit que les élections par courrier ne vont pas à son faveur. À travers mes convictions, je vois Joe Biden comme favori. Je souhaite que l'élection se passe dans l'amiable.
Monsieur Sidati Koulibaly, nous en tant qu'Africains, nous souhaitons que vraiment un président soit élu qui va vraiment fructifier les relations entre l'Afrique et les États-Unis, ce qui serait notre souhait pour la présidence des États-Unis.
Au niveau de l'administration publique malienne, la présidentielle aux États-Unis est très sûre car le pays de l'oncle Sam aide le Mali dans la lutte contre le terrorisme.
Parlement Blaise Touré, nous on est vraiment très concernés parce que c'est une première puissance qui nous aide beaucoup plus dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Seulement les Américains, ils sont là, ils aident le monde entier. On est fiers d'eux, surtout au nord. L'armée malienne est équipée et renseignée par les Américains. Nous comptons sur vraiment la qui est la paix dans ce monde.
Dans le cadre de ces élections présidentielles, l'ambassade des États-Unis au Mali a formé une dizaine de journalistes sur le système électoral américain. Maliki Diallo de Renouveau Télé était parmi les journalistes qui ont participé à cette formation virtuelle.
Moi, personnellement, j'ignorais beaucoup de choses sur l'élection aux États-Unis. Je n'arrête pas de me poser la question, quelle est l'élection des grands électeurs? Quelle différence entre les grands électeurs et la masse populaire? Et comment les grands électeurs sont choisis. Et aujourd'hui, je peux écrire sur l'élection. Je peux aussi informer beaucoup de gens, beaucoup de mes lecteurs, beaucoup de nos téléspectateurs sur comment se passe l'élection aux États-Unis.
À cause de la maladie à coronavirus, la traditionnelle soirée électorale ne sera pas organisée cette année par l'ambassade des États-Unis. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Togo aussi, les regards sont tournés vers les États-Unis d'Amérique qui choisissent demain leur futur président. Certains Togolais estiment cependant que, quel que soit le vainqueur, cela ne changerait rien de la politique américaine envers l'Afrique. Le reportage à Lomé de notre correspondant Kayi Lawson.
Le prochain président des États-Unis d'Amérique sera connu ce mardi soir. Ces élections américaines passionnent les débats à Lomé, mais sans grande attente de la part des Togolais. Avec l'épisode de l'ancien président Barack Obama, ces Togolais ont pris conscience que le futur locataire de la Maison Blanche n'aura pas une réelle influence sur la politique africaine de l'Amérique.
Que ce soit Donald Trump ou Joe Biden qui soit élu à la présidence américaine, leur politique vers l'Afrique, ce sera toujours dans l'intérêt des États-Unis.
Peu importe le prochain locataire de la Maison Blanche, cela ne va pas changer dans le fond. Prenons le cas par exemple d'un Donald Trump qui a traité les pays africains de « shadow countries », c'est-à-dire des pays de mer. Toutefois, les missions des États-Unis en Afrique n'ont pas vraiment changé.
Les résultats de ces élections détermineront certainement la politique américaine vis-à-vis de l'Afrique, tout en tenant compte de ce que le système américain permet. Au temps du président Obama, le monde attendait une grande implication dans les politiques des pays africains. Mais les changements n'ont pas été aussi profonds qu'on le prévoyait.
Germain Dodon estime pour sa part que l'Afrique ne pèse pas suffisamment dans la balance pour espérer influer sur la politique étrangère américaine.
L'Afrique est un paramètre d'ajustement quand il s'agit de la géopolitique et de la géostratégie pour le moment. Juste un exemple. Lorsque le Togo avait siégé au Conseil de sécurité, le secrétaire d'État d'alors, Mme Clinton, s'est déplacée personnellement pour passer au Togo. C'était pour s'assurer du vote du Togo lors d'un sujet précis qui concernait l'État d'Israël. L'Amérique, toujours l'Amérique pour les Américains.
Quel que soit Alpha, les résultats de ces élections sont très attendus, même ici au Togo.
Une chose est certaine, Trump réélu, nous serons dans la continuité de ce que nous voyons aujourd'hui. Et certainement plus. Joe Biden élu, certainement qu'il y aura un changement. Mais la question est dans quel sens? Biden sera peut-être dans la logique Obama.
Ayoabi Atiso s'abstient de se prononcer sur le nom du futur président américain en ayant à l'esprit le duel Clinton-Trump de 2016.
Les Américains sont surprenants, vraiment surprenants. 2016, tout donné, il arrive vainqueur. Et bon, Donald Trump ou Joe Biden, que le meilleur gagne. Dans tous les cas, je sais que les Américains choisiront celui qui défendra mieux leurs intérêts. Alors je leur souhaite de très bonnes élections.
Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Sénégal, au lendemain du remaniement ministériel, les Sénégalais sont partagés. À Dakar, la grande surprise, c'est le retour de l'ex-opposant Idrissa Seck dans la mouvance présidentielle. De notre correspondant depuis Dakar, Seydina Abagay.
7 départs, 9 arrivées, 4 changements de poste et finalement, peu de nouvelles têtes. L'attelage gouvernemental de 33 ministres et 4 secrétaires d'État nommés par le président Macky Sall ne convainc pas les citoyens sénégalais comme Mariama Mansali.
Hier, j'étais trop surpris quand j'ai entendu le nombre de ministres qu'il a encore nommés et ceux qui sont encore dans leur poste officiel. Mais quand, pour moi, je pense que les ministres sont nombreux. Ils devaient diminuer. Il n'y a pas de sens qu'il maintient beaucoup de ministres. Moi, je pense que tout ça, c'est pas logique. Et surtout, l'entrée de Idrissa Seck. Selon moi, je pense que Idi n'avait pas à entrer dans ce gouvernement.
Idrissa Seck, opposant, arrivé deuxième de la dernière présidentielle, est objet de toutes les critiques depuis l'annonce de sa nomination au Conseil économique, social et environnemental. Diangé Dia estime que le leader du parti Réumi a berné tout le monde.
Idrissa Seck, personne n'en pensait qu'il allait venir dans le gouvernement, puisqu'il avait sa propre coalition et qu'on pensait qu'il allait se présenter dans les élections présidentielles de 2024. Mais vu qu'il est venu dans le changement que le président Macky Sall a fait hier, il nous a déçus. Il a déçu la population sénégalaise et le monde entier.
Une déception que partage Dame Djité. Pour lui, cette alliance entre Idrissa Seck et Macky Sall signe la fin de la carrière politique de l'ancien maire de Thiès.
Je crois que c'est un piège parce qu'Idrissa Seck était très bien placé dans l'opposition. Il aurait pu être président facilement s'il avait assumé son statut de leader de l'opposition. Mais Macky l'a tiré dans la mouvance présidentielle rien que pour le tuer politiquement. C'est la deuxième fois qu'il s'est fait piéger de la sorte. D'abord avec Wade, et là c'est le président Macky Sall qui lui fait le même coup. Finalement, on est tenté de dire qu'Idrissa Seck ne croit en rien et c'est décevant.
Le remaniement ministériel fait par le président Macky Sall a été littéralement éclipsé par la nomination d'Idrissa Seck comme président du Conseil économique, social et environnemental. Pour beaucoup de Sénégalais, cette nouvelle alliance entre les deux anciens dauphins du président Abdoulaye Wade montre que les politiciens ne sont préoccupés que par leurs intérêts. Pour les analystes politiques, ce rapprochement est le début d'une nouvelle ère dans l'espace politique sénégalais. Seydina Abagay, Dakar, pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Au menu de Washington Forum cette semaine, la présidentielle américaine du 3 novembre. Avec nos analystes, nous reviendrons sur le déroulement du scrutin présidentiel, les résultats, les enjeux et son impact. Que peut-on retenir des courses au Congrès? Qu'est-ce qui a été déterminant dans ces scrutins? Quelle politique étrangère américaine pour les 4 prochaines années? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi 5 novembre à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Lunanira Gahima, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon et Joselle Morissin. À la présentation, Eric Manirakidza. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellente soirée à tous. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
La poliomyélite ou polio est une maladie infectieuse paralysante et potentiellement fatale causée par un poliovirus. Le poliovirus envahit le système nerveux central et peut causer une paralysie totale en quelques heures. Il peut attaquer les personnes de tout âge, mais les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement à risque. La polio peut être prévenue par la vaccination, mais n'est pas curable une fois qu'une personne est atteinte. En 1988, l'Assemblée mondiale de la santé s'est engagée à éradiquer la polio, une maladie responsable de plus de 350 000 cas de paralysie infantile par an dans 125 pays. L'USAID, par ses contributions, a aidé à assurer l'éradication de virus sauvages de la polio dans les Amériques en 1994, dans le Pacifique occidental en l'an 2000, en Europe en 2002, dans le Sud-Est asiatique en 2014 et très récemment cette année en Afrique. À la mi-août, l'Afrique a été certifiée exempte de polio après 4 ans sans nouveau cas. Le Nigeria a été le dernier pays à remplir les normes rigoureuses de certification, rejoignant ainsi 46 pays de la région pour célébrer ce jalon historique de la santé publique. Aujourd'hui, les cas de polio ont diminué de 99,9% et il n'y a plus que l'Afghanistan et le Pakistan qui comptent encore de cas de polio en nombre endémique. Dans beaucoup de pays, la voie vers l'éradication de la polio n'a pas été facile. Des longs conflits, la désinformation, les populations déplacées, les communautés isolées et d'autres défis ont ralenti et continuent d'entraver les efforts de lutte contre le virus. Toutefois, si la transmission du virus résiduel doit être bloquée, la réponse continue doit se poursuivre. Ce n'est qu'à travers la dédication sans faille, la quête créative des solutions et le dur labeur de communautés locales, des gouvernements nationaux et des partenaires mondiaux qu'un monde sans polio est à portée de main. En partenariat avec ces innombrables travailleurs de la santé, les leaders communautaires et les volontaires qui n'ont pas perdu de vue qu'il faut atteindre chaque enfant, le soutien de l'USAID à l'éradication mondiale de la polio a aidé à assurer que plus de 400 millions d'enfants soient vaccinés contre la polio chaque année. Aujourd'hui, près de 19 millions de personnes peuvent marcher alors qu'elles auraient pu être paralysées et 1,5 million de personnes sont en vie alors qu'elles auraient pu mourir. 2020 est une année remarquable pour célébrer la Journée mondiale contre la polio. Avec la région africaine certifiée exempte du poliovirus sauvage, alors même que la pandémie du COVID-19 continue de perturber les systèmes de santé dans le monde, y compris les programmes de vaccination de routine. L'USAID et ses partenaires comptent utiliser les leçons apprises et les infrastructures mises en place en vue d'éradiquer la polio pour éclairer notre réponse à la pandémie actuelle et d'autres flambées de maladies infectieuses.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.